Donc c'est, ça relève de la justice divine. Donc être passible de la guéhenne de feu introduit au jugement divin après la mort. Et donc nous voyons que Jésus traite de la colère comme d'une affaire de justice. De justice objective. Ce n'est pas une affaire de sentiment, pour l'instant. Et c'est bien ce qui précède, d'ailleurs, ce passage dans Saint Matthieu. Si votre justice, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc cette affaire de colère prend une tournure importante. Alors, la justice, il faut surpasser une justice. Donc c'est qu'il y avait une justice, évidemment. Et la justice des scribes et des pharisiens, c'est la justice des gens qui connaissent bien l'Écriture et qui font tous leurs efforts possibles, imaginables, pour être purs. Hein? Les Pérouchim, les pharisiens sont les gens qui se séparent des autres pour rester purs, pour ne pas être justement emmenés dans le maelstrom sentimental et défectueux de la vie quotidienne. Donc alors ça leur donne une certaine estime d'eux-mêmes, et évidemment ça a été caricaturé assez facilement, puisque lorsqu'on se croit pur, on est facilement orgueilleux, mais on l'a sans doute traité là, dans une autre séance. L'orgueil étant la racine de tous les maux, c'est connu. Mais la colère, justement, n'est pas d'abord un mal, on va voir. Alors, la colère, c'est gizuto, la racine ragaz en syriaque. Et cette colère, comme c'est analysé très bien par Aristote et ensuite par saint Thomas, elle est une réaction émotive, comme disent les psychologues modernes, immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de réflexion, dans le fait que vous mettez en colère. C'est immédiat. Alors c'est pour ça que c'est dangereux, puisque les choses immédiates, justement, ont peu de rapport avec la raison. Alors il se trouve que la colère va mettre en jeu quelque chose dans la nature humaine. Est-ce que nous pouvons réagir automatiquement, parce qu'il y a une espèce d'automatisme de la colère? Parce que si on réfléchit, on ne se met plus en colère. C'est cuit, quoi. C'est immédiat. Hein. C'est comme tomber amoureux. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que sinon, on ne l'est pas longtemps. Hein. Mais alors, la colère, si vous réfléchissez, vous n'êtes plus en colère. Donc, c'est quelque chose qui vous saisit. Mais où? Mais comment? Mais pourquoi? Et il se trouve que la colère est une expérience absolument universelle. Alors, il suffit de se souvenir de nos expériences, parce que nous avons tous cette expérience. Quand on est gamin, on se met souvent en colère, et même quand on est adulte, parfois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la colère est toujours, quand on analyse la chose, une requête de justice. C'est que ce qui va provoquer la colère, c'est le fait d'avoir le sentiment d'être dédaigné, d'être mis à l'écart ou d'être mésestimé. Et ça, ça nous arrive toujours. Alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, justement. Et c'est ça qu'on va examiner. Requête de justice devant ce qui nous paraît injuste. Que ça nous touche ou pas à l'occasion. Parce qu'on va voir, c'est tout un chapitre, qu'il y a une colère, par exemple, chez Jésus. Que la plupart des gens, quand même, conçoivent qu'il était juste. C'était un homme juste. À défaut de croire qu'il était Dieu, parce que peu de gens peuvent comprendre de quoi il s'agit, mais au moins c'était injuste. Et dans l'Écriture, quand on y regarde de près, ce qu'on ne voit pas trop dans les bouquins de psychologie, évidemment, Dieu se met en colère très souvent. Il y a une colère divine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous, on s'en débarrasse facilement en disant que c'est une métaphore. Bon, hein, Dieu n'est pas susceptible de passion, dit saint Thomas d'ailleurs. Alors, on se demande comment il peut se mettre en colère. Donc, il nous faut un examen un peu plus profond. Donc, je vais essayer de regarder ce que c'est que la colère en elle-même en suivant le schéma de saint Thomas. Et après, on fera nos divagations à nous. Mais saint Thomas en a bien traité et il place la colère dans les passions de l'âme. Alors évidemment, c'est un langage que nous connaissons peu. C'est que, d'abord, il faut supposer qu'on a une âme, que nous sommes des êtres animés au moins. Et dans la définition aristotélicienne et donc thomiste, l'homme est un animal raisonnable. Alors la nature humaine participe de l'animalité quelque part, mais est spécifiée et ne devient vraiment humaine que lorsqu'on a l'usage de la raison. Et c'est pourquoi d'ailleurs le troisième degré de l'injure, ça va être de dénier la raison à quelqu'un, parce que ça le réduit ipso facto à l'animalité. Remarquez bien que c'est une chose qui arrive, non pas d'être dans l'état d'animalité, mais d'y être réduit par des jugements. Par exemple, lorsqu'un juge actuel déclare quelqu'un de totalement irresponsable. Il est suffisamment fou pour être irresponsable. Quand on déclare ça, on nie en lui la nature humaine. On nie la raison. Et on porte un jugement que seul Dieu pourrait porter, et qu'il ne porte pas d'ailleurs, on va voir sur quoi ça porte le jugement divin, hein, c'est qu'un homme aurait perdu son humanité. Eh bien voilà une chose impossible, en bonne logique. Bien sûr que les apparences sont parfois très contraires, et que des gens ayant sombré dans la folie ont toutes les apparences d'avoir perdu complètement la raison. Mais est-ce vrai? Et a-t-on le droit de le dire? On pourrait dire, il a l'apparence d'avoir perdu la raison, il faut l'enfermer pour qu'il ne nuise pas, mais a-t-il vraiment perdu toute raison? Et n'est-il vraiment plus un homme? Et c'est un très gros problème, hein, parce que on refuse, par exemple, à des gens un peu dément, un vrai jugement. De quel droit exclut-on des hommes du jugement? Autrement dit, ils ne sont plus passibles de la justice. Ils n'ont plus droit à la justice. C'est quelque chose de très grave, voyez. Quand on réfléchit, calmement, évidemment. J'espère qu'il n'y a pas de juge dans l'Assemblée. Ou plutôt, ça serait peut-être bien qu'il y en ait un. Pour qu'on réfléchisse à ces choses-là. Donc, une passion de l'âme, qu'est-ce que c'est qu'une passion de l'âme? C'est une chose que nous connaissons bien expérimentalement, à défaut de l'avoir théorisé. C'est quelque chose de passif. Nous sommes capables d'actes, par exemple de volonté, d'intelligence, et ça c'est vraiment actif. On est intelligent en acte. On ne peut pas être intelligent de façon passive. On dort. Quand on dort, on n'est pas intelligent. On dort. On est intelligent quand on est en acte de comprendre. Et c'est nécessairement actif. Par contre, il y a des choses qu'on ressent et qui sont nécessairement passives. Par exemple, tout ce qui relève du concupiscible, comme dit Thomas, c'est-à-dire la jouissance, par exemple. La jouissance est passive. On ne peut pas se forcer à jouir d'eux. C'est quelque chose qui nous advient, on en est capable, c'est une capacité, et alors on a du plaisir, on n'en a pas, mais on ne peut pas se fabriquer du plaisir. Ça, c'est impossible. On peut se mettre dans les conditions de pour avoir du plaisir, mais le plaisir lui-même est passif. Alors la colère Elle fait partie des passions de l'âme. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne produit pas volontairement. Mais que peut-être on peut maîtriser, ce qui est une autre affaire, qu'on peut réguler. Ça nous arrive, comme d'avoir mal aux dents, on peut avoir la colère. Voilà. Sauf que le mal aux dents, ça se maîtrise chez le dentiste, parce qu'il y a des techniques. Et la colère, ça se maîtrise comment? Si ça doit être maîtrisé. C'est notre objet ce soir. Et la colère, qui s'appelle ira en latin, a donné son nom aux puissances irascibles. Irascible, c'est très classique. C'est-à-dire, l'irascible, c'est le bien qu'on cherche, mais qui est difficile à obtenir. Il faut faire un effort, c'est ça. Eh bien, la colère fournit son nom à l'effort qu'il faut faire pour atteindre un bien. Par exemple, étudier. Étudier, pour plusieurs, ce n'est pas une jouissance. C'est un effort à faire pour atteindre un bien, à savoir la connaissance, non pas l'examen. C'est autre chose. Ça, c'est du commerce. Mais le bien, c'est d'être éduqué, de connaître. Et donc, d'être un peu moins injuste avec le Créateur, la créature et tout le reste. Évidemment, un ignorant est presque nécessairement dans l'injustice. Donc il y a un devoir profond, là, je dis pour la jeunesse, c'est de s'instruire jour et nuit et jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Les gens qui arrêtent, ils en savent assez, eh bien, ils s'encrassent plutôt. Ils font une erreur pour eux-mêmes et pour les autres. Ils deviennent à charge à cause de leur ignorance. Alors, toutes les passions ont un contraire, d'après saint Thomas. Alors c'est intéressant cette affaire, parce que, par exemple, il y a une passion qui s'appelle l'espoir. L'espoir, c'est bien désirer un bien dans le futur. On ne l'a pas tout de suite, mais on mobilise quand même un peu d'énergie en soi pour l'attendre. J'espère, je ne sais pas quoi, j'espère faire une bonne conférence. C'est un espoir. Voilà. C'est pas gagné d'avance, il faut mobiliser quelques énergies, et puis ça dépend pas entièrement de moi, puisque une parole n'a de sens que si elle est entendue, et donc ça dépend beaucoup des auditeurs. Donc il y a au moins la moitié de la conférence qui est faite par vous-même dans votre façon d'écouter. Et comme dit Jésus, prenez donc garde à la façon dont vous écoutez. Et parce que ça peut embellir peut-être, mais parfois aussi démolir ce qu'on entend, quand on n'a pas la disponibilité et l'intelligence qui convient. Voilà. Alors, cette colère, alors il y a l'espoir et il y a le désespoir, c'est qui est le contraire. On voit que la chose est si difficile à obtenir qu'on ne cherche même plus à l'obtenir. Voilà. Les gens se découragent et puis ils ne cherchent pas. Voilà. Puis je serai toujours, je ne sais pas, coléreux, donc je ne lutte plus contre ma colère, par exemple. Mais qui vous a dit de lutter contre la colère? Est-ce que ce n'est pas un biais un peu social? Parce qu'évidemment, quelqu'un qui éclate en colère à tout bout de champ, en vain, il est très pénible à ses contemporains. On ne peut plus lui parler, il est susceptible, etc. Il se met dans tous ses états dès qu'on dit un mot. Il comprend de travers, etc. C'est affreux. Socialement, c'est affreux. Donc, la société se charge de dire aux coléreux de se calmer. Et ça, c'est de l'auto-éducation sociale. Et ça n'atteint pas les racines, évidemment. Alors, saint Thomas dit que la colère n'a pas de contraire. Et il y a l'espoir et le désespoir. Il y a la crainte et l'audace, la crainte, c'est-à-dire je veux un bien, mais je sais que ça va être difficile et j'ai à craindre, je ne sais pas, la jalousie de quelqu'un ou je ne sais pas quoi. L'audace, c'est-à-dire malgré la difficulté, j'y vais. Par exemple, l'organisateur de cette conférence a eu de l'audace, c'est-à-dire il n'a pas craint de faire face aux difficultés peut-être que personne viendrait, alors il aurait eu honte parce qu'il y aurait eu 5 personnes. Bon, mais nous sommes nombreux, donc son audace a payé. Voilà. Mais la colère, il n'y a pas de contraire de la colère. Et ça, c'est une chose à examiner. Il y a un contraire de la jouissance, c'est la douleur. Il y a un contraire de l'espoir, c'est le désespoir. Il y a un contraire d'à peu près toutes les passions. Et la colère, non. C'est quelque chose, donc, qui doit être, qui n'est pas susceptible de négation. Alors, quelques-uns savent ici que j'aime beaucoup la logique, et que j'en fais beaucoup, moi aussi, d'ailleurs. Et ça me fait dresser l'oreille. Quelque chose qu'on ne peut pas nier. La non-colère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a des gens qui ont essayé tout de même. Et par exemple, si vous allez voir les stoïciens, ils ont essayé d'être dans la non-colère. Et ça s'appelle la pateia, en grec. Qui est une chose qui est aussi cherchée dans le monde bouddhique. Mais alors évidemment, si on veut enlever la colère parmi les passions de l'âme, il faut nécessairement ne pas désirer la justice. Puisque la colère, c'est notre désir de la justice face à une injustice. Vrai ou supposé, on y reviendra. Mais donc il faudrait abolir le désir dans l'homme pour qu'il n'y ait pas de colère. Mais peut-on abolir le désir? Ça serait détruire l'homme. Donc la colère n'a pas de contraire. Et vous voyez, donc c'est une passion qui est extrêmement fondamentale. Et pour dire, je sais pas, il faut que je regarde l'heure aussi, on va la trouver dès les origines et on va faire un petit tour dans la Genèse pour l'y voir. Je vois l'heure passer, donc je tourne les pages. La colère est-elle naturelle? Oui, c'est une démonstration. Et la colère, alors, quand la colère devient-elle un mal? Parce que j'ai vu l'heure, là, ça m'a inquiété. Donc, quand c'est que c'est un péché capital? Voilà. Eh bien, quand elle est mauvaise, bien sûr. Donc, elle est susceptible de bien et de mal. Et nous connaissons essentiellement la mauvaise colère. Et socialement, on ne parle que de celle-là, ou pratiquement. Dans l'Écriture, on parle aussi de la bonne colère. Eh bien, la mauvaise colère, c'est celle qui déborde son objet. C'est très simple, justement, là où la raison n'intervient pas. Puisque la colère naît en dehors de la raison, mais si on est homme, la raison doit réguler la colère. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord avoir une idée de ce que c'est que la vie. Être vivant, c'est notre cas à tous, mais parfois on n'a pas d'idée très juste sur ce que c'est que la vie. Donc je fais une toute petite parenthèse là-dessus. C'est le contexte qu'il me faut pour pouvoir expliquer la suite. D'habitude, nous pensons à la vie comme à la vie biologique. On est allé aux écoles et on a vu des cellules, et on a regardé au microscope, et puis etc. Bien, on a fait de la biochimie, etc., etc. Et nous avons dans la tête une définition de la vie qui est profondément fausse, mais qui est universelle ou presque. Donc je la dis pour pouvoir mieux la démolir. La vie, ça naît, ça grandit, ça croît, ça se développe, et puis ça se reproduit à l'occasion, et puis ça dépérit et ça meurt. Oui. triste destin de la vie qui est de mourir. Cela est absurde. Démonstration. C'est absurde, pourquoi ? Alors, évidemment, on ne peut le voir que si on fait l'hypothèse que Dieu est vivant. Ce qu'il dit d'ailleurs dans l'Écriture sainte, c'est la première révélation qu'il fait de lui-même. Il dit « Anochi chai »« Moi, je suis vivant ».